Nous poursuivons aujourd'hui les chroniques consacrées aux grands documents qui nous permettent de connaître Domfront dans les périodes anciennes et d'en écrire l'histoire. Alors, dans les chroniques, la chronique précédente, on a parlé des contes des baillis de Robert d'Artois. On était donc à l'extrême fin du XIIIe siècle et au tout début du XIVe, puisque le dernier conte, il est de l'année 1302, avant la mort de Robert II d'Artois à la bataille de Courtrai. Alors après, on est dans la grande histoire, que j'ai pas envie de raconter ici, puisque je suis en train de parler de documents. Bon, enfin, très très rapidement, on résume, Robert d'Artois meurt à Courtrai, il y a un problème de succession. Donc la succession est disputée entre sa fille. Son fils est déjà mort avant lui, ça a été un des drames. Il s'appelait Philippe d'Artois, mais il est mort 4 ans avant son père. Donc ça a été un des grands drames de l'histoire de France, qui a permis à M. Maurice Druon de faire 6 forts volumes sur la question, ça s'appelle Les Rois Maudits. Donc il a une fille qui s'appelle Mao d'Artois, et il a un petit-fils, le fils de Philippe le décédé, qui s'appelle lui aussi Robert, on va appeler Robert III, qui se dispute l'héritage. Alors, entre-temps, le roi met la main sur l'Artois et le bailliage de Domfront, parce qu'au départ, ce sont des terres royales. Donc, avant de rendre son jugement. Et son jugement, il ne le rend qu'en 1309. Donc, entre 1302 et 1309, c'est géré, le Domfront est géré par des baillis ou des agents du roi de France. Alors, on sait, ils ont été à la Cour des Comptes, la fameuse Cour des Comptes qui a brûlé en 1737. Donc, on sait qui était le... Alors, il disait plus un bailli, il disait un receveur. On sait donc qui était le receveur royal. Ils ont plusieurs, d'ailleurs, à s'être succédé. Le premier, ils ne sont pas fatigués. Ils ont dit à Robert de Bellebrune de continuer. Vous êtes là, vous continuez. Puis après, il y a eu un G de Landa. On ne sait pas ce que veut dire G, si ça veut dire Guillaume ou Gérard. Puis ensuite, il y a eu Massiot de Rueil. Alors là aussi, ils ne sont pas fatigués. Massiot de Rueil, c'était le clerc de Simon de Morgard et de Simon de Saint-Corme. Il a travaillé encore pour Robert de Bellebrune, donc c'était un habitué du Domfrontais. Bon, donc on sait que ces comptes ont existé et ils sont perdus. Alors je sais pas quand est-ce qu'ils ont été perdus, au plus tard lors du fameux incendie de 1737, ou peut-être même avant, dans les différents pillages ou les différents prélèvements que les érudits faisaient dans les archives de la Cour des Comptes. Le roi a repris Domfront en sa main, et puis après il a jugé, et lors de notre exposition de 2021, nous avons fait venir à Domfront la superbe charte de Philippe le Bel, de 65 cm de haut sur une cinquantaine de large, avec son sceau conservé en parfait état, enfin bref, un chef-d'œuvre, dans lequel le roi donc donne l'Artois à Mao, et tout ce qui n'est pas l'Artois donne à Robert. Je ne rentre pas dans les détails, on en parlera plus tard. Alors donc le Robert III, alors on l'appelle Robert III d'Artois parce que c'est son nom de famille, mais il n'a jamais été comte d'Artois, légalement en tout cas. Il l'a peut-être revendiqué, mais il n'a jamais été comte d'Artois. Donc, par contre, il a été seigneur de Domfront et d'autres terres. Il a été seigneur de Meun-sur-Yèvre, mais ça lui venait de sa grand-mère paternelle. La femme de Robert II et la mère de son père Philippe d'Artois. Donc il a été seigneur de Meun-sur-Yèvre, il a été seigneur également de Nonancourt, de Conches, en Ouche, en Normandie aussi. Je ne reviens pas sur l'origine de ses possessions qui sont, ça fait revenir très très loin en arrière. Et donc le problème c'est que Robert III, alors de deux choses l'une, soit il n'avait pas de chancellerie et il gérait au petit bonheur la chance, en tout cas, il n'a pas laissé de documents. Ou ces documents ont été perdus, ont été confisqués et se sont perdus puis quand il a fait l'objet d'un procès et qu'il a été banni du royaume en 1331-1332. Parce que Robert III a fait faire des faux documents royaux comme quoi son grand-père aurait donné... de toute façon, si jamais son fils mourait, l'Artois aurait été transmis à son petit-fils, c'est-à-dire à lui, au détriment de sa tante. C'était trop beau pour être vrai, c'était des faux. Et pour avoir fait des faux royaux, avoir faux documents, avoir prélevé avoir confisqué, avoir détourné des sceaux du roi de France, etc., il a fait l'objet d'un jugement. Et il a été banni. D'ailleurs, il s'était exilé de lui-même avant d'avoir... Donc, entre 1309 et 1332, brave Jean, on a à peu près rien. C'est vraiment, on a un document, et encore indirect, comme quoi les gens de Mantilly, de la paroisse de Mantilly, ont obtenu une vergée de terre pour agrandir leur cimetière de notre ami Robert III. Vous voyez que ça fait un peu léger pour connaître la gestion de Robert III. Donc, en 1332, c'est le roi qui reprend la terre de Domfront en sa main et qui envoie, cette fois-ci, ses agents à lui. Alors, le roi nomme... il n'y a plus de bailliage, c'est fini. Le roi nomme un vicomte. Mais le ressort de la vicomté est le même que celui de l'ancien bailliage. Alors vous allez me dire, mais pourquoi un vicomte ? Parce que la Normandie était déjà divisée en vicomté, administrativement, depuis longtemps, et donc le roi de France a mis à Domfront la structure qui existait déjà sur le reste de la Normandie. Donc on nomme un vicomte, et ces vicomtes, eux aussi, sont mis à rendre des comptes. Régulièrement, deux fois par an. Alors là, ça a changé, je ne sais pas pourquoi. C'est plus l'Ascension et la Toussaint, c'est la Saint-Michel, donc le 29 septembre, et Pâques. Voilà, ça c'est le rythme des vicomtes du XIVe siècle. Alors, le roi Philippe VI garde Domfront, et c'est géré par ses vicomtes, de 1332 à 1343, parce qu'en 1343, Philippe VI donne la terre de Domfront à son neveu, qui est Philippe d'Alençon, c'est le fils d'un de ses frères. Philippe d'Alençon, il a fait une carrière ecclésiastique, il va finir archevêque de Rouen, ce qui est pas mal. Ce Philippe d'Alençon abandonne au bout de quelques années Domfront et il donne ça à son propre frère, plus jeune, Pierre d'Alençon, qui est comte d'Alençon. Et c'est pour ça que la vicomté de Domfront a été indirectement incorporée dans le comté d'Alençon. Alors, il en reste quelque chose de nos jours. Il en reste de nos jours que Domfront est dans l'Orne et non pas dans la Manche, où il aurait très bien pu être. Mais bon, puisque ça dépendait maintenant du duché d'Alençon, c'est logique que quand on a fait des départements, on a mis Domfront dans la Manche. Bon, enfin, bon, parenthèse, parce que là, nous dispersons, on n'est plus dans les documents. Alors, il n'y a pas de documents conservés, hélas, si ce n'est, heureusement pour nous, des copies partielles du XVIe siècle, des années 1550-1560, à l'occasion de la succession du dernier duc d'Alençon, parce que le comté d'Alençon est devenu un duché en 1404. Donc, quand le dernier duc d'Alençon est mort en 1525, c'était Charles IV, duc d'Alençon, là aussi, sa succession a été disputée, etc. Et je ne sais pas pourquoi il a fallu que quelqu'un a demandé à ce que les comptes qu'un certain nombre de documents soient recopiés, et notamment des comptes de la vicomté de Domfront. Alors, ils sont pas tous... Donc, le document, il n'est pas original, vous avez bien compris. Il ne date pas du XIIIe siècle, du XIVe siècle. Il date la copie, elle est du XVIe. Ils sont pas complets, mais on a 10 comptes entre la Saint-Michel 1332 et Pâques 1343. On a 10 ou 11, plutôt, comptes recopiés plus ou moins partiellement. Voilà. Alors, on n'a pas tout, mais enfin, c'est mieux que rien. Donc ça, c'est sur la période de 1332 à 1342. Et dans le détail, on a un compte de travaux spécifique, celui de la Toussaint 1334. Bon, même s'il est daté, s'il a été rédigé après, il est daté du 10 mai 1335. Ça date d'un vicomte qui s'appelle Pierre d'Avranches. On a les noms des vicomtes qui se succèdent. Donc c'est à l'époque où un vicomte, Pierre d'Avranches, alors est-ce qu'il était originaire de la ville d'Avranches ou est-ce que c'est son nom à lui ? Non, on n'en sait rien. Était vicomte de Domfront, et là, on a un chapitre spécifique, recopié, authentique, qui est conservé à la bibliothèque municipale de Rouen. Donc voilà, il a été édité par François de Beaurepaire aux Pays-Bas normands en 1962. Alors, toujours pour rester à cette époque-là, XIVe siècle, les autres documents importants, ou l'autre document très important qui a été conservé, c'est le très célèbre livre de Marie d'Espagne, qui date de 1346. Alors, le livre de Marie d'Espagne, il est connu. On n'a pas l'original de 1346 ou 1347, ou 1348 peut-être. Vous allez voir pourquoi cette imprécision sur les dates. Il est connu par des copies plus tardives, l'une des années environ 1450, et puis 1453, la plus ancienne. Elle a été éditée par Gabriel Hubert dans le Pays-Bas normand en 1956, et puis il y a encore d'autres copies plus tardives, notamment dans le Chartrier de la Chalerie, il y avait une copie 17e siècle de ce livre de Marie d'Espagne. Ce livre de Marie d'Espagne, c'est une grande enquête sur les droits d'usage dans les forêts, de, en l'occurrence pour nous, de Passet et d'Andenne. Alors en fait, c'est dans toutes les forêts de l'apanage d'Alençon. Et Franck Mauger a retrouvé des copies également tardives pour les forêts de Découvre, de Vente, de Bourse, du côté d'Alençon, dans l'est, à l'est d'Onfron. Mais le livre, ce qu'on a nous conservé, c'est qui concerne les forêts d'Andenne et de Passet, qui recense tous ceux qui ont des droits d'usage dans, la, dans les forêts, qui ont le droit d'y pénétrer, d'y faire paître leurs leur bêtes. Oui, parce qu'une forêt, il n'y a pas des arbres partout dans la forêt. C'est encore de nos, comme de nos jours, il y a des endroits qui sont défrichés, vous avez des prés au milieu de la forêt. Bon, on peut emmener ces bovins paître, on peut emmener ces porcs manger les glands, on peut aller prélever de la mousse, de la pierre, du bois. Enfin, il y avait des gens qui avaient des droits immémoriaux, et tout ceci est consigné dans ce célèbre livre de Marie d'Espagne. Alors, le livre de Marie d'Espagne, il s'inscrit dans un contexte général d'enquête forestière, parce que assez époques-là aussi, le roi de France fait pareil. Il y a des enquêtes forestières dans les forêts du roi de France, donc je suppose que la comtesse d'Alençon fait exactement la même chose pour... Je ne pense pas que ce soit un ordre du roi de France, pour limiter, enfin pour être dans un souci de gestion rationnelle de son domaine. Alors je dis la comtesse parce que le comte, c'est Charles II d'Alençon, son mari, sauf que Charles II d'Alençon, il est mort bêtement avec plein d'autres grands seigneurs à la bataille de Crécy. Donc elle est veuve, elle est toute seule et elle essaye de mettre de l'ordre dans les affaires du comté d'Alençon. Donc voilà, ça c'est les grands documents du XIVe siècle, et il faut bien avouer qu'on n'est pas très très riche, parce que après 1343, donc vous avez compris que ça appartient, vicomté de Domfront est incorporé dans le comté puis duché d'Alençon, et les archives du comté puis duché d'Alençon, il y en a, elles sont très dispersées. Bon, Franck Mauger en a retrouvé quand même beaucoup dans ses travaux. Mais bon, on n'a pas tout ce qu'on veut et on manque furieusement de grands documents comptables comme on a pu avoir jusque-là. Alors après, faut attendre le XVe siècle, qui est la deuxième grande période en ce qui concerne les documents médiévaux conservés pour Domfront. La première, je vous rappelle, c'était notre ami la fin de la présence de Robert II d'Artois, donc fin XIIIe, début XIVe. On est à l'époque de la guerre de Cent Ans, et même dans la deuxième partie de la guerre de Cent Ans, la période de la deuxième occupation anglaise qui a duré à Domfront de 1418 à 1450, parce que la première occupation anglaise, elle est très informelle. C'est une bande de routiers, de soldats professionnels mi-anglais, mi-navarrais. Alors je mets navarrais entre guillemets, ils viennent pas... Ils peuvent venir de Navarre, mais en fait, c'est des soldats de Charles le Mauvais, qui est effectivement roi de Navarre, mais qui était aussi comte d'Évreux, comte de Mortain, qui est un seigneur normand. Charles de Navarre, c'est le fils de la fille du roi Louis X, d'une part, et son père est fils de Louis d'Évreux, et Louis d'Évreux, c'était un fils du roi Philippe III. Donc, il est très très proche, par sa mère et par son père, il est très très proche de la famille royale française. Il aurait pu être roi de France si les femmes avaient pu transmettre, si la fille de Louis X avait pu transmettre, mais il y a eu la fameuse loi Salique. Donc, c'est un type qui aurait pu être roi de France, qui ne l'a pas été, et qui s'en remet pas, et qui a fortement lutté contre les premiers Valois, contre Philippe VI, contre Jean II surtout, et même les débuts du règne de Charles V. Je ne fais pas toute l'histoire, en 1356, on y reviendra, on racontera ça de façon plus précise, il y a une première occupation du château par une compagnie, je ne sais pas combien ils étaient, on n'a aucune idée, une cinquantaine d'hommes, une centaine d'hommes tout au plus, qui étaient mi-anglais, mi-navarrais, entre guillemets. Mais c'est juste des gens qui occupent le château, je ne sais pas s'ils se sont préoccupés d'administration, et on n'a pas la queue d'un document comptable pour ces époques-là. Donc c'est surtout pendant la période de la deuxième occupation anglaise, fin de la guerre de Cent Ans, donc de 1418 à 1450, qu'on a beaucoup de documents, et ces documents, on ne va pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui, puisqu'ils sont quand même extrêmement nombreux, extrêmement importants, et je sens qu'ils vont faire l'objet de la prochaine chronique.